au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Gallimard-Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. Des confessions très suspectes. Pour bien faire, le pamphlet doit être bref, comme son nom l'indique. À condition de faire un peu d'étymologie, le pamphlet vient de palme feuillet, c'est-à-dire la feuille qui se tient dans la paume de la main. Si bref doit-il être, ce petit texte est par définition incisif. Il pique comme une pointe et cela doit faire mal. C'est une arme de combat. Ils furent nombreux à la manier cette arme, davantage en politique. Les gens laborieux écrivaient Paul-Louis Courier de Méret n'ont pas le loisir de feuilleter une centaine de pages. Courier savait de quoi il parlait, il fut l'auteur du pamphlet des pamphlets publié en 1824, qui donna son nom à ce genre littéraire, car à l'origine, le mot servait à désigner des brochures. Cet auteur s'adressant à l'interlocuteur anonyme qui lui demandait ce qu'était un pamphlet et le sens de ce mot qui, sans lui être nouveau, avait besoin de lui être de quelque explication, répondit « C'est un écrit de peu de pages, d'une feuille ou deux seulement. » Le dictionnaire de l'Académie, dans sa cinquième édition, datée de 1798, le définissait comme étant un mot anglois qui s'emploie quelquefois dans notre langue et qui signifie « brochure ». L'édition suivante, parue en 1832, ajouta à cette définition « Il se prend souvent en mauvaise part. » Il reste que la devise du courrier était « Peu de matière et beaucoup d'art. » On n'avait toutefois pas attendu courrier pour composer des pamphlets au sens où il l'entendait. Songeons simplement aux philippiques de Démosthène, voire les provinciales de Pascal, et pourquoi pas les mazarinades, en fait des libelles, autrement dit des écrits injurieux. Le pamphlet prit son mauvais tour durant la seconde moitié du XVIIIe siècle et Voltaire y prit une bonne part. Souvenons-nous de l'horrible danger de la lecture, en fait un plaidoyer pour la diffusion des œuvres et des idées. Ce texte composé en 1765 figure dans les mélanges 4 dans les tomes 25 de ses œuvres. Camille Desgoulins le suivit à partir de son intervention dans les jardins du Palais Royal avec Jean-Pierre Brissot démasqué qui date de 1792, puis l'histoire des Brissotins, l'année suivante, qui lui sera fatale. Épargnons-nous les textes pornographiques mettant en scène la reine Marie-Antoinette, que l'on qualifie de pamphlet faute de mieux, mais qui en ont toute l'apparence, car leur fondement était politique. Il s'agissait par tous les moyens de discréditer la famille royale. Maurice Levers en a publié plus d'une dizaine dans son anthologie érotique du XVIIIe siècle, et les titres de ses brochures sont évocateurs. Les amours de Charlotte et Toinette, 1779, Le Godemiché Royal, 1789, L'Autrichienne en Goguette, la même année, Bordel Royal, 1790, Fureur utérine de Marie-Antoinette, en 91, Les adieux de la reine à ses mignons et mignonnes, 92, etc. Et l'ont un autre, plus subtil, si l'on peut dire, qui s'intitule Confession générale des princes du sang royal, auteur de la cabale aristocratique. Dont on nommait trop souvent dans les présentations des catalogues le sous-titre, item de deux catins distingués qui ont le plus contribué à cette infernale conspiration, plus un acte de repentir de Monseigneur de Juigné, archevêque de Paris, copié littéralement sur les manuscrits originaux de ces villes destructeurs de la liberté et donné au public par un homme qui s'en rit. Et en guise d'adresse bibliographique, cette mention ne laisse aucun doute sur la qualité de l'ouvrage. A. Aristocratie, chez Main Morte, imprimeur des commandements secrets de Son Altesse Royale, Monseigneur le Comte d'Artois, 1789. Ce pamphlet en forme de confession du prince de Conti, de la princesse de Monaco, de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, de la duchesse de Bourbon, de la marquise de Fleury, du duc d'Enghien, sur la mort du Celu, fut commandé par le duc d'Orléans, futur Philippe Égalité, afin de discréditer la cour et surtout Louis XVI et Marie-Antoinette. Afin de donner au premier regard le change, l'ouvrage est orné d'un frontispice au lavis, très finement gravé, représentant Louis XVI. Napoléon ? Eh oui, Napoléon Ier en possédait un exemplaire qu'il fit relier en plein maroquin rouge à ses grandes armes. L'empereur, passionné par l'histoire de France et surtout intéressé par sa nouvelle alliance avec les Bourbons grâce à son mariage avec Marie-Louise d'Autriche, avait demandé à Barbier, son bibliothécaire, de se procurer la plupart des ouvrages sur la fin de la monarchie. Pourrions-nous imaginer que Napoléon cherchait davantage à étudier ses pamphlets et éventuellement les prévenir afin de protéger sa personne ? Dans ses souvenirs contemporains des 100 jours, paru en 2 volumes, Abel-François Villemain, qui fut élu à l'Académie française à l'âge de 30 ans, avant de devenir le secrétaire perpétuel, pourrait confirmer cette opinion. Il devait lui sembler, à Napoléon, à écouter ce bruit dans les pamphlets du temps, que le maître manquait surtout. Nous ignorons si Napoléon ait connaissance depuis Sainte-Hélène des confessions de Napoléon, qui publiait Paris au Temple de la mémoire chez Lexipilo, imprimeur du Poulet, en 1816 en 2 volumes, et composé par un certain P.J.S. Dufay, avec un Y. Cet ouvrage comprend, en guise de frontispice, une planche dépliée représentant la réception de Napoléon dans une loge des Illuminés. Cet ouvrage, qui ne fut jamais réédité, se rattache à la fois au genre du pamphlet anti-napoléonien qui a fleuri en 1815 et 1816 et a suivi de la spéculation sur le rôle des sociétés secrètes dans les événements de l'époque. L'empereur, censé être l'auteur de ce livre, y révèle ses desseins secrets. On lui fait dire notamment qu'il avait reçu les premiers grades quand Paoli partit pour la Corse. Certes, Louis XVI et Marie-Antoinette ne furent pas les premiers souverains à souvenir des ouvrages personnels sous nos Henri III, dont Oreiller les Mignons, d'Anne d'Autriche, des Salillons supposés avec Mazarin, de Louis XV, le plus laid de tous. Mais comme le souligne Maurice Levert, la satire pouvait blesser l'homme ou la femme qu'elle prenait ainsi à partie, mais elle ne remettait jamais en cause les fondements mêmes de leur pouvoir. »